c'est pas un problème, c'est une donnée, c'est toujours le cas, c'est qu'il y a un lien de subordination. C'est-à-dire que quand on fait un travail, on le fait pour une rémunération. Et ça, ça engendre toujours de la politique interne dans les entreprises. Et donc les gens commencent à porter des masques, ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent ou être qui ils sont. Et ça crée des grosses frustrations et on pense que c'est vrai.
Aujourd'hui, pour ce 9e épisode, j'aimerais vous présenter une personne passionnée et engagée que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de sa conférence au consulat de Belgique à Montréal. Guillaume Donné nous a présenté sa philosophie de la culture d'entreprise basée sur l'intelligence collective et son projet. Et il répond à mes questions. Alors, salut Guillaume.
Salut Christian.
Bah, merci beaucoup pour prendre ce temps pendant ton court séjour à Montréal pour répondre à mes questions.
Bah, écoute, avec plaisir.
Moi, quand j'ai eu l'occasion de te découvrir en fait, à la petite conférence que tu nous as offerte il y a quelques jours, j'ai vraiment été agréablement surpris par ce que tu as apporté et l'état d'esprit dans lequel tu étais et tu avais développé ton projet. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais ?
Donc moi je m'appelle Guillaume Donnet. J'ai lancé une entreprise en 2007, une entreprise de consultance environnementale. Donc le but c'était vraiment d'optimiser des bâtiments pour réduire leur empreinte écologique. Et durant l'activité de cette entreprise, on a eu l'occasion de travailler pour certains clients et on s'est rendu compte des gros clients, des grandes banques et du gros secteur tertiaire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème de perte de sens dans les entreprises. Beaucoup de gens n'osaient pas être eux-mêmes, n'osaient pas dire ce qu'ils pensaient. Ça crée des frustrations du côté des employés, mais ça crée aussi des frustrations du côté du management qui n'était pas capable de prendre des décisions correctes puisqu'il ne connaissait pas bien ses employés. Et en fait, on s'est dit que le développement durable, c'est quelque chose qui s'articule autour de trois axes. Donc, people, planet, profit. Et on a beaucoup travaillé sur la planète, sur le profit, et on s'est dit on va développer quelque chose pour les people. Et donc voilà, c'est là qu'est né le Vox Collector. Donc le Vox Collector, c'est un outil qu'on a développé avec une université en Belgique. Cet outil permet de reconnecter les gens, de créer un dialogue d'entreprise et de vraiment les impliquer dans les décisions, dans le processus de décision des entreprises. Voilà. Et puis, j'expliquerai peut-être plus en détail après.
Ouais, on va aller explorer ça. Mais déjà, qu'est-ce qui t'a amené à faire le lien entre perte de sens et de mieux connaître ses employés, de mieux connaître les gens qui sont sur place, et justement pour pouvoir générer un peu plus de sens dans les entreprises.
Mais en fait, ce qui nous a amené là, c'est de se dire qu'en analysant la situation, on s'est dit que le gros problème dans l'entreprise, ce n'est pas un problème, c'est une donnée, c'est toujours le cas, c'est qu'il y a un lien de subordination. C'est-à-dire que quand on fait un travail, on le fait pour une rémunération. Et ça engendre toujours de la politique interne dans les entreprises. Les gens commencent à porter des masques, ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent ou être qui ils sont. Mmh. Et ça crée des grosses frustrations. Et on pense que c'est vraiment le problème principal. Les employés, c'est quand ils sont malheureux, c'est surtout parce qu'ils ne sont pas, ils ne correspondent pas à l'image qu'ils renvoient ou à la culture d'entreprise de l'entreprise dans laquelle ils sont. Voilà.
Donc c'est ça, vous avez parti du coup Vox Collector. Alors qu'est-ce qui vous a amené ? Ben, tu vas nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que Vox Collector, puis votre fameux boîtier. Mais qu'est-ce qui vous a amené justement à créer ça comme ça ? C'était quoi votre cheminement
Mais donc, il y a eu vraiment un stimulus, c'est en 2015. Donc, j'ai lancé ça avec mon frère. En 2015, on faisait de la consultance pour une grande banque en Belgique. Énorme institution, un dinosaure, on peut dire, avec beaucoup, beaucoup de niveaux hiérarchiques. Et il y a une fête en Belgique qui s'appelle la Saint-Nicolas. Et c'est le 6 décembre. Et le 6 décembre, en général, les entreprises offrent à tous les employés, des Saint-Nicolas en chocolat. Voilà, c'est la, c'est la tradition.
Ouais, c'est ça.
Et donc le N plus 2, c'est-à-dire le boss du boss de mon frère, est venu dans son bureau, lui dit « Mathieu, j'ai une surprise pour toi ». Et ils ont été voir la secrétaire. La secrétaire leur a donné une clé qui a permis d'ouvrir une armoire dans laquelle il y avait tous des Saint-Nicolas en chocolat. Et donc le N plus 2 de mon frère lui a donné son Saint-Nicolas en disant voilà, joyeux Saint-Nicolas. Et quand mon frère Mathieu est rentré à son bureau, eh bien, il y a le boss de son boss qui lui a dit écoute, tu ne peux pas rentrer tout de suite, là, il faut que tu signes sur ce listing à côté de ton nom pour bien dire que tu as reçu ton Saint-Nicolas en chocolat. Et ça a vraiment été le déclencheur en se disant comment c'est possible de travailler dans une entreprise et d'être engagé dans une entreprise s'il y a tellement de contrôle. Et pourquoi est-ce que le management a tellement peur de faire confiance aux employés. Donc ça a vraiment été le stimulus.
Qui a déclenché
d'abord une réflexion sur le problème. Okay. Et bon, le problème, c'est vraiment, c'est aussi un problème d'adaptation des entreprises, puisque on passe d'un modèle qui est hérité de Taylor, vraiment hiérarchique, pyramidal des entreprises, mm-hmm. un modèle qui doit, et ce modèle-là, en fait, ne tient pas maintenant dans l'environnement actuel de transformation, de digitalisation, etc. Ça fonctionne pas. Donc tout le monde court dans tous les sens pour trouver une solution. et nous, on pense que la solution, c'est de passer de cette structure pyramidale qu'on appelle un peu une structure machine mm-hmm. à quelque chose de plus organique, vraiment un organisme qui soit capable justement de se développer, d'évoluer, de se modifier rapidement. Et voilà. Et donc pour ça, c'est évidemment hyper important que les gens correspondent à ce qu'ils ont envie d'être et à ce qui et à ce qui, enfin voilà, à l'entreprise, mais aussi que la communication, par exemple interne, soit hyper efficace, que les gens puissent communiquer entre eux, qu'il y ait vraiment une reconnexion en fait des gens. Et voilà. Et tout ça toujours dans un environnement où il y aura ce lien de subordination. Et donc voilà.
Et ben justement, je vais rebondir sur ce que tu dis. C'est vous avez permis, vous permettez en tout cas cette création de liens sur des sujets spécifiques. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ?
Oui, donc en fait, ce qu'on fait, c'est très simple. On a développé donc, je le disais, avec une université, un outil. C'est une espèce de borne de jeu d'arcade vidéo avec deux boutons, un vert et un rouge. Et sur l'écran de cette borne de jeu d'arcade, on affiche tous les jours une proposition différente. Enfin, une phrase. Et on demande aux employés de venir se positionner de manière tout à fait anonyme. D'ailleurs, c'est et volontaire par rapport à cette phrase. Donc, il faut imaginer une entreprise où on installe en bas des ascenseurs cette borne de vote, donc, mais très gamifiée de type arcade de jeux vidéo. Et voilà, l'employé arrive, il voit quelque chose écrit, il se positionne, ou il ne se positionne pas s'il n'a pas envie, et puis il monte à son bureau travailler. Et en parallèle avec ce positionnement, on affiche en temps réel les résultats. Donc tout le monde dans l'entreprise est au courant du score, disons, du résultat à la proposition de la journée.
Ensemble, valorisons de nouvelles pratiques de travail, de collaboration, afin de faire émerger des projets porteurs de succès tout en ayant un impact social et environnemental. Ce podcast vous propose des rencontres d'entrepreneurs de cœur qui vous offrent des astuces pour vous permettre de développer votre projet. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple justement de ce à quoi participent ou répondent les employés ?
Bon, alors, effectivement, tout ce qu'on affiche sur l'écran, ça peut être par exemple « Results are more important than efforts ». Donc les résultats sont plus importants que les efforts. Une question très culturelle pour voir le type de culture d'entreprise. Mm-hmm. Ou ça peut être une question sur l'hydratation. J'ai bu au moins deux fois de l'eau aujourd'hui. Ou bien ça peut être une question sur le management. « My boss is open to complaints ». Et le but, c'est vraiment... Faut imaginer, par exemple...
Les réponses sont oui, non.
Les réponses sont oui, non. Ou « I agree, disagree ouais. ». D'accord, pas d'accord. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on affiche les résultats en temps réel. Donc, sur un grand écran qu'on installe dans un lieu de rassemblement comme un restaurant d'entreprise ou la cafétéria. Donc, par exemple, si on l'a déjà fait dans une banque chez qui on était... Quelques jours avant Noël, on a affiché sur l'écran « J'ai déjà passé Noël seul ». Ça m'est déjà arrivé de passer Noël seul. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 29% des gens qui avaient répondu oui. Et ça crée des dynamiques et des réflexions entre les gens. Et ouais. Ça ouvre des yeux. En fait, il y a vraiment moyen de faire de la vraie inclusion grâce à cet outil. Parce qu'il n'y a pas de jugement par rapport à la réponse. Donc les gens, ils votent de manière anonyme, il n'y a pas de jugement. et on affiche les résultats et ça ouvre des yeux.
Oui, justement, qu'est-ce que vous avez constaté que ça génère? Alors déjà, humainement parlant, puis les bénéfices aussi pour l'organisation qui propose cette activité?
Alors, humainement parlant, on crée des discussions et on crée du lien entre les gens. Mm-hmm. Il y a 3 ans, dans une boîte qui produit des réacteurs nucléaires, on a mis, par exemple, « Climate change is bullshit ». Ça, c'était une des propositions. Mm-hmm. Et donc, c'était il y a 3 ans. Hein. On a eu près d'un tiers des gens qui ont dit « oui, c'est du bullshit ». Et donc, les gens ont parlé à la cafétéria, c'est affiché en grand. Voilà, 33% des gens pensent que ici, dans cette entreprise, voilà, le climate change, c'est des bêtises. Et donc, on s'est retrouvé avec quelqu'un qui avait écrit sur une serviette tout un argumentaire en disant que ce n'était pas des bêtises, que c'était réel, et qu'il a laissé comme ça près de l'écran où étaient affichés les résultats.
Pour sensibiliser les gens.
C'est juste une réaction, quoi. Les gens réagissent, les gens interagissent, en fait. Qu'est-ce qu'on a posé d'autre? Y a moyen aussi, par exemple, de faire du change. Donc, par exemple, si... On a plusieurs types d'interactions. Donc il y a des types des interactions qui sont plutôt de l'évaluation pour voir comment les gens se sentent dans l'entreprise, mm-hmm. mais il y a aussi des interactions qui ont plus attrait à des actions qui vont générer des comportements. Par exemple, si on affiche sur l'écran I will smile to the next person I see, mm-hmm. je vais sourire à la prochaine personne que je vois. Ben voilà, il faut imaginer les gens dans ces énormes mastodontes d'entreprise qui arrivent le matin, qui ont peut-être pas un grand sourire. Et qui voit ça, et même si les personnes vont répondre non, je ne vais pas sourire à la prochaine personne que je vois, il va y avoir une réflexion sur quelle tête ils ont à ce moment-là, mm-hmm. et s'il y a moyen de faire autrement et de sourire. Donc c'est vraiment, il y a aussi des...
Ça apporte une auto-évaluation un peu, c'est-à-dire que tu te conscientises toi-même sur ton attitude, ton comportement personnel.
C'est pareil avec la question dont je parlais, « My boss is open to complaints ouais. ». Okay. Dans une grande structure, il y a plusieurs boss. Et le but du jeu, c'est, pour l'instant, on n'a pas eu le cas, mais on imagine si le résultat est mauvais, c'est-à-dire si on a 10% de gens qui disent que oui, il y a seulement 10% des boss qui sont ouverts aux plaintes ou aux critiques, ça ouvre des yeux. Parce que les boss, quand ils descendent dans la cafétéria et qu'ils voient ça affiché, ils vont se remettre en question. Ou ils vont au moins se poser la question de « ah, voilà ».
Et en quoi cet anonymat, alors pour ceux qui se poseraient la question, en quoi l'anonymat est important? Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus d'applications sur la santé et le mieux-être des employés au travail. En quoi l'anonymat est important pour ce type de questions? Et je vais commencer par cette première question.
Il y a quelqu'un qui s'appelle McNamara qui a fait des expériences et... De tout ce qu'il a fait comme expérience, on s'est rendu compte qu'il y a un truc qui s'appelle le McNamara Fallacy. C'est le fait que dans les entreprises, on a tendance à piloter une entreprise avec que les variables qu'on est capable de mesurer.
Okay? Tout à fait.
Et il y a plein de variables qui ne sont pas mesurables et qui sont pourtant très importantes. Et nous, on s'est dit que peut-être qu'on ne sait pas mesurer toutes les variables avec cet outil, mais qu'on peut au moins avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus authentique grâce au fait d'avoir cet anonymat. Le but, c'est vraiment, l'anonymat, c'est vraiment pour réduire la politique interne et vraiment avoir une vraie vision de ce que les gens pensent et ce que les gens disent. Parce que si on veut une culture forte dans une entreprise, il faut qu'elle soit basée, qu'elle soit co-créée sur ce que les gens pensent et pas sur la casquette qu'ils se donnent. Pour vous donner un exemple, j'étais à Paris dans un grand groupe énergétique, présenter ma solution. Je l'ai présentée au management qui a dit « c'est génial ». C'est super, mais comme c'est basé sur l'intelligence collective, il va falloir qu'on demande aux gens s'ils ont envie de l'installer. J'ai dit très bien, donc on a fait une deuxième réunion, avec des gens sur place. Et là, je leur ai dit, écoutez, on va faire une expérience sociale. Je vais vous présenter le Vox Collector, mais je vais vous poser des questions et vous allez répondre. Je ne vous connais pas, donc j'ai créé une petite page web avec 2 boutons. Dit en temps réel, si je vous connaissais, je pourrais retracer votre IP et votre adresse IP. Mais là, je ne vous connais pas. Donc, n'ayez pas peur de répondre. Et la première question que j'ai posée, c'était tous des gens autour de la table qui s'appelaient des change makers, donc des gens qui sont censés être vraiment sensibilisés et sensibles à la culture d'entreprise. Et la première question que j'ai posée, c'était « je préférais être à la maison qu'à cette présentation ». Et là, j'ai eu 30% des gens qui ont dit oui. Donc, il y avait 3 personnes sur 10 qui préféraient être à la maison. Et après, je demande, voilà, est-ce que ces 3 personnes pourraient lever la main? Et donc, il n'y a personne qui lève la main. J'ai dit « ok, très bien, on continue la présentation ». Et là, j'ai posé une question. Je suis en train de chercher un job sur LinkedIn. Okay? Et là, on a eu une personne qui a dit oui. Mm-hmm. Et donc, j'ai dit, bon, qui est en train de chercher un autre job sur LinkedIn? Personne n'a levé sa main. Mm-hmm. Et pourtant, c'est vraiment des données qui sont importantes pour l'entreprise. Et nous, évidemment, notre rêve, c'est que l'entreprise soit tellement...
crée
tellement de confiance, ouais, que quand quelqu'un veut changer de travail, il puisse aller en parler à son manager, tout en disant, écoute, en fait, là, pour l'instant, je ne suis pas bien dans ma fonction. Et qu'il y ait vraiment une discussion en disant, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que je peux t'offrir quelque chose ou est-ce que je ne peux pas t'offrir quelque chose? Mais qu'il y ait vraiment une réflexion, une discussion. Et donc, voilà. Et bon, il y a encore un truc dont je n'ai pas parlé, c'est juste que derrière toutes ces interactions qu'on propose sur cet écran, il y a un modèle, en fait. Il y a un modèle RH, donc un modèle culturel de l'entreprise avec 16 variables RH. Et le but, donc, c'est de... je prends toujours cette image que, en fait, nous, on va essayer de donner une image très claire de l'entreprise en récoltant des données anonymes. En fait, c'est un peu comme les pointillistes. Il y en a un, c'est Georges Seurat, un Français, qui a fait une toile. Il en a fait plusieurs, c'était son style. Et c'était pour peindre, il utilise des points de couleurs différentes. Et donc, c'est des toiles qui ont un sens quand on prend du recul, quand on regarde l'ensemble. Ça, c'est vraiment la transparence de groupe. Mais quand on se met à 2 cm de la toile, on voit des points de couleurs différentes. Et ça, c'est la transparence individuelle. Et on pense que ça n'a aucun sens de traquer les gens. Parce que, voilà, c'est pas...
Ça représente rien.
Ça représente rien, c'est pas nécessaire. Et pour nous, c'est de la privacy. C'est la... Comment on dit ?
Ouais, la vie privée, ouais, dans le fond.
C'est la vie privée. Ouais, et ça. En fait, pour prendre des décisions d'entreprise, ça n'a pas beaucoup de sens.
Non, c'est ça.
Donc voilà, le but, c'est vraiment de donner une image très claire de la culture d'entreprise en récoltant des données anonymes.
Oui, il y a plus l'aspect sociologique qui va servir l'entreprise. Et bien justement, sur l'aspect anonymat, comment permettez-vous de rassurer les gens sur l'aspect anonymat? Parce que là, on voit un boîtier, 2 boutons. Qu'est-ce qui fait qu'on s'assure de l'anonymat des gens et que les gens se sentent autant capable de répondre? Vous disiez que vous aviez quand même des taux de réponse de 80%.
Oui, 80%. Donc ça, c'est assez incroyable. Mm. On a un taux de réponse de 80% et qui est continu. Donc, mais ça, c'est grâce au fait qu'on pose des questions sur plein de sujets différents. Mm-hmm. Donc, je crois qu'il y a vraiment une manière de poser des questions et d'adapter ça à l'activité de l'entreprise, parce qu'on peut vraiment, comme je disais, on peut vraiment faire de la communication interne. Et par exemple, si on fait une collecte de sang la semaine prochaine, on pose la question sur un des membres de ma famille a déjà bénéficié d'une transfusion sanguine, et on va vraiment mettre du poids sur la communication interne. Ou bien, par exemple, la newsletter va sortir la semaine prochaine, et donc on peut annoncer que la newsletter va sortir et savoir qui est intéressé pour lire la newsletter. Et donc, il y a vraiment un aspect... l'anonymat, c'est... La question, c'était...
L'anonymat, en fait, comment les gens se sentent en confiance pour pouvoir répondre?
Okay. En fait, voilà, on s'est vraiment dit, est-ce que ça va être difficile de demander à des gens d'installer sur leur téléphone personnel une app pour leur poser des questions sur leur boulot? On s'est dit, les gens ont tellement d'apps, les taux de rétention des apps, c'est minuscule.
Puis en plus, il y a beaucoup de craintes aussi par rapport à l'anonymat, j'imagine.
Il y a énormément de craintes par rapport à l'anonymat. Donc, c'est-à-dire que je pense que les gens n'ont pas du tout envie d'être traqués. Et on entend de plus en plus d'histoires avec des données qui sortent, des breaches, des security breaches. Là, j'étais à New York il y a quelques jours et je présentais donc la même conférence sur la...
L'intelligence collective et la culture
d'entreprise. Et y avait quelqu'un là-bas qui disait « Ah oui, moi, j'étais responsable des questionnaires de satisfaction de ma boîte. » Et en fait, à un certain point, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas anonyme. Et donc, j'ai complètement perdu confiance dans le CEO et je suis parti. Et voilà, nous on sait que... Et même, d'ailleurs, même à la conférence à laquelle on était l'autre jour, il y avait quelqu'un qui disait « Oui, il y a moyen de faire de l'anonymat en utilisant des blockchains, etc. » Je dis « C'est très bien ça, mais je pense que les gens ne sont pas du tout prêts parce qu'il y a aussi la perception de l'anonymat.
Oui.
Donc quand on utilise une app ou quand on utilise une plateforme, c'est vraiment super difficile d'extraire l'authenticité des gens à cause de ce masque, à cause de cette politique interne. Et bon, c'est sûr que le Vox Collector, c'est un outil qui doit s'apprivoiser. Hein. Donc on ne peut pas directement poser des questions comme par exemple, si j'avais un problème personnel, je pourrais en parler à un de mes collègues. Non, c'est pas au début, il faut vraiment aller doucement, des questions assez générales. Le premier mois est un mois où, parce qu'on travaille en termes de campagne, on fait des campagnes. Mm-hmm. Des campagnes de 6 mois ou de 12 mois et on renouvelle. Et en fait, ben voilà, c'est, on ne peut pas commencer directement avec
des questions fortes,
mais on commence avec des choses assez générales. Et puis voilà, on évolue et on construit une confiance avec tout le monde dans l'entreprise. Et voilà.
Découvrez des faire ensemble, collaboratifs, humains et conscients. Pour encourager ce podcast, laissez-nous quelques étoiles et commentaires sur votre iTunes ou votre système de balado-diffusion. Il vous est également possible de partager ce podcast au travers de vos réseaux sociaux. Et j'aime ça, ça me fait penser justement au travail d'Arthur Aaron qui s'est retrouvé face à cette problématique où il a commencé à bâtir, alors on appelle ça les fameuses 36 questions, on les trouve souvent sur Internet sous les 36 questions pour tomber amoureux, qui est plutôt partie de légende urbaine plus que de vérité. Mais en tout cas, Arthur Aaron avait pensé ces questions comme ça, c'est-à-dire d'abord d'aller sur des questions qui soient légères, faciles à répondre, puis ensuite d'y aller de plus en plus en profondeur pour créer du lien entre individus et surtout entre employés aussi.
Et ce qui est super important, c'est aussi de montrer qu'il y a de l'impact. Parce que le but du jeu, c'est donc d'introduire les employés dans un dialogue d'entreprise et un dialogue comme ça qui va les connecter. Donc même s'ils sont sur des sites physiques différents, ils vont être connectés avec leur entreprise. Mm-hmm. Et de manière très simple et super facile, il faut juste pousser sur un bouton, c'est d'une facilité déconcertante. Qu'est-ce que je voulais dire avec
puis,
ça
mais bah justement qu'il y a un impact, c'est-à-dire que les gens voient que quand ils appuient sur le bouton, quand
oui,
ils
il faut qu'il y ait un impact. C'est-à-dire qu'il faut leur montrer qu'il y a des choses qui vont changer, quoi, hein, qu'ils ont quelque chose à dire. Donc, dans une des boîtes chez qui... Parce que d'habitude, il faut vraiment faire une bonne communication pour expliquer aux gens, voilà, on va mettre ça en place chez vous, ça sert à faire ça, etc. Et on va vraiment vouloir améliorer votre vie au travail et comprendre quelle est votre culture d'entreprise, etc. Mmh. Parce que les gens ne sont pas des enfants. On a tendance à les infantiliser, mais les gens ne sont absolument pas des enfants. Mmh. Et donc, dans une des entreprises, on était rentré vraiment sans faire une bonne communication. Et là, on a directement décidé dans les tout premiers jours de donner un choix aux employés. On a fait une action toute concrète et toute simple, c'est qu'on a été dans la cafétéria d'entreprise, enfin le restaurant d'entreprise, et on a demandé au restaurant d'entreprise de nous proposer deux plats qu'ils n'avaient jamais proposés aux employés. Mmh. Et on leur a donné le choix, voilà, sur le Vox Collector. Mmh. Et il y a un des plats qui a gagné, et donc c'était les cannelloni de la nonna. Et donc voilà, on a fait un happening là-dessus, et les gens se sont rendus compte assez tôt dans le processus que, ah oui, on les écoutait, et ça avait un impact, et qu'on allait vraiment leur poser des questions après sur plein de choses.
C'est là où on voit que avec le Vox Collector, vous arrivez à bâtir une relation de confiance dès la base, puis assez rapidement finalement.
Mais même, il y a des entreprises où on avait plusieurs bornes installées à des étages différents, donc, mm-hmm. et on se rendait compte qu'il y avait une borne qui était plus connectée à Internet parce qu'ils avaient un problème de routeur ou n'importe quoi, et on affichait sur une autre borne, oui, la borne en dessous, elle est déconnectée, est-ce que vous pourriez demander au service IT de... Et dans les 5 minutes, le problème était résolu. Donc il y a vraiment,
ah oui,
c'est assez étonnant, mais il y a une interaction même avec nous via ces bornes. Et ouais, non, c'est
je trouve qu'il y a beaucoup d'agilité là-dedans. C'est vraiment intéressant. Puis ça montre bien aussi le pouvoir de l'intelligence collective finalement sur la rapidité sur laquelle on peut s'adapter. Puis c'est ce que c'est le grand problème finalement des entreprises pyramidales d'aujourd'hui, cette capacité rapide à s'adapter. Elles ont un gros problème par rapport à ça. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans votre dans le principe de ce que vous avez développé. Pour moi, vous revenez sur des bases essentielles de l'intelligence collective, dont la transparence. Moi, j'aimerais ça savoir ton avis sur pourquoi la transparence est importante dans une entreprise.
Eh bien, moi, je pense qu'on est dans une vague pour l'instant où on a beaucoup, beaucoup de discours policés, corporates, du discours corporate très policé. Et je pense que c'est une manière d'infantiliser les gens. Et je pense que la transparence, c'est une manière de faire, la transparence de groupe, hein, c'est une manière de faire de la vraie inclusion. Pas de l'inclusion
déguisée.
Pas de l'inclusion déguisée en disant, parce qu'on a tendance à dire pour l'instant que tout le monde est égal, mais dans le sens, tout le monde est le même.
Ouais.
Tout le monde est le même. Et ça, c'est évidemment une manière très facile de faire, mais c'est pas une bonne manière. Parce que ce qu'il faudrait dire, c'est tout le monde est égal, mais différent. Mmh. Et il faut respecter ces différences. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile à faire et à mettre en pratique dans les entreprises. Et donc, on a assisté à cette espèce de discours policé. Alors que quand on met, par exemple, un de mes meilleurs amis fait partie de la communauté LGBT, bam, on a la réponse affichée en grand. Et tout le monde voit et tout le monde dit « Ah bah ouais, en fait, voilà. » Donc, c'est vraiment... Il y a moyen de faire de la vraie inclusion parce que c'est basé sur le vrai... gut feeling des gens, sur ce qu'ils pensent vraiment, parce qu'il n'y a pas de jugement sur cette borne. Donc, moi, je pense que c'est très sain, en fait, comme outil.
Oui, tout à fait. Et donc, tantôt, tu parlais d'entreprises pyramidales et plus organiques. Hein, donc, il y en a qui appellent ça gouvernance partagée, l'holacratie, de gouvernance horizontale. En quoi, pour toi, l'intelligence collective est importante, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, dans les entreprises?
Je pense que c'est la seule manière d'être super agile. C'est-à-dire qu'il faut avoir une communication super efficace et il faut... Bon, on dit toujours ça, je ne sais pas si on le dit chez vous, mais en Belgique, on dit qu'il y a plus dans deux têtes que dans une. Mmh. Moi, je pense que c'est pareil. Je pense qu'il y a énormément... D'ailleurs, il y a des questions qu'on affiche pour savoir les skills des gens. Est-ce qu'il y a des compétences qu'ils ont et qu'ils n'utilisent pas et qui n'utilisent pas pour l'entreprise. Je pense que c'est l'intelligence collective, c'est primordial si on veut s'adapter très vite. Et c'est pour ça qu'il faut savoir très vite qui a des affinités avec quelle matière et pour pouvoir combiner ces matières. Et donc voilà.
Quel conseil tu donnerais aux entreprises qui ne croient pas encore en ça ou ont encore des craintes à transformer leur mode de gouvernance finalement?
En fait, je pense que j'essaye d'identifier la crainte. J'aimerais comprendre d'où elle vient, en fait. Parce que maintenant, on a vraiment de plus en plus de données, de chiffres qui montrent que, justement, les entreprises pyramidales, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour l'environnement actuel. Il faut absolument que ça s'adapte. Qu'est-ce que j'aurais leur donné comme conseil?
Ouais, ou est-ce qu'il y aurait une clé que tu aurais envie de leur offrir?
De faire confiance aux employés, de faire confiance aux gens, de se rendre compte que le modèle a tout à fait changé, que les gens qui sortent maintenant de l'université, les gens qui rentrent dans les entreprises sont en général plus éduqués que les gens qui sont au top, et que ça, c'est une grande différence, et que ça ne sert à rien de les infantiliser, et que plus on responsabilise les gens, eh bien, plus ils sont performants, plus ils sont épanouis, plus ils ont de l'impact, et c'est comme ça que ça marche. Et si on veut maintenant s'adapter à un marché qui change tout le temps, eh ben, il faut être forcément agile. Et donc, il faut que la structure change. Il faut que les gens soient prêts au changement. Mmh. Et donc, faire du cosmétique là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup, mais ça n'a pas de sens. Mais de toute façon, tôt ou tard, il va falloir changer. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on veut être dans les premiers ou est-ce qu'on veut être à la traîne et essayer de changer plus tard et d'essayer de sauver les pots cassés. Mais
effectivement.
Voilà.
Oui, mais justement, dans la même lignée de questions, en fait, c'est. Mais à l'inverse, c'est selon toi, qu'est-ce que tu prédis, qu'est-ce que tu prévois un peu comme conséquence pour les entreprises qui ne chercheraient pas à s'adapter?
Le problème, ça va. Je pense que les entreprises qui ne seront pas capables de s'adapter, ça va être vraiment qui tout double. C'est-à-dire que si elles sont dans un créneau qui fonctionne encore. Disons que la digitalisation, ça transforme tout. Hein. La transparence d'information aussi, ça transforme tout tellement vite. Moi, je pense que c'est juste pas envisageable, en fait. C'est pas du tout envisageable. Je vois pas comment... J'imagine pas dans 10 ans encore des entreprises à de structures comme ça, avec la globalisation, avec l'accès à... Faudrait peut-être dans des monopoles, mais ça me paraît tout à fait. Et puis il y a une vraie guerre pour attirer les talents. Hein. Ça c'est clair et net. Et pour attirer des talents, surtout les nouvelles générations, c'est des choses qui sont primordiales pour elles, quoi. Mm-hmm. Une proximité, une communication ouverte, c'est primordial maintenant. Donc oui.
Ben merci beaucoup. J'ai envie de te donner une dernière question, t'offrir un dernier espace de parole, te dire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé dire, que tu n'as pas pu dire ou que je ne t'ai pas questionné sur quelque chose?
Évidemment, il y a plein de choses que j'aurais aimé dire. Parce que, non, mais non, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Non, on a fait le tour. Je pense qu'on est en train de vivre des changements sociétaux vraiment fascinant, majeur, hyper intéressant. Et vivement, en fait, vivement qu'il y ait ces transformations qui se fassent et que les gens puissent être eux-mêmes et que ça puisse. Voilà.
Oui, moi, je pense qu'on ne l'a pas vraiment dit, mais quelles sont les conséquences de pouvoir avoir ce type d'entreprise-là?
Quelles sont les conséquences pour les entreprises?
Oui, tu sais, d'avoir des gens qui sont. D'installer Vox
Collector,
mais d'avoir aussi des employés qui sont heureux, puis pour qui ça fait du sens d'être dans cette entreprise.
Déjà, il y a des impacts sur l'employer branding, parce que les gens, quand ils rentrent chez eux, ils disent pas. Ils parlent en bien de leur entreprise. Mm-hmm. Les gens parlent en nous.
Ouais.
Ils disent nous avons fait ça, donc ils s'approprient l'entreprise. En termes vraiment très opérationnels, il y a une réduction du turnover, donc il y a moins de gens qui partent. Il y a moins d'efforts à mettre pour attirer des gens, les talents. Il y a moins de gens qui partent en congé maladie. Donc il y a vraiment des retombées très 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 claires et très mesurables en fait.
La relation client aussi qui.
Et puis il y a les relations clients, puis il y a aussi la vitesse de décision des process. Il y a plein de retombées. Oui, donc évidemment quand je dois m'adresser à une entreprise qui est très très pyramidale et je commence en leur expliquant voilà c'est ça que vous allez voir et après je leur explique. Mais bon, il y a énormément de retombées hein, qui dépassent même tout ça, quoi. Donc voilà.
Ben merci beaucoup, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Moi, je suis basé à Bruxelles. Je retourne demain soir. Il y a évidemment une page LinkedIn Vox Collector. Sinon, il y a ma page LinkedIn Guillaume Donnet. Et il y a un site voxcollector.com. Et c'est à peu près tout. Mais la communication, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler pour l'instant. Donc, on est en pleine refonte de notre com parce qu'on n'était pas assez visible. Et maintenant, on commence vraiment à être beaucoup plus visible. Il y a des gens qui s'occupent de ça pour nous. Donc, c'est vraiment chouette. Et donc, voilà.
En tout cas, bravo parce que vous accomplissez un énorme travail de fond. C'est super. Bravo.
Un grand merci.
Merci à toi. Merci. Si ce podcast vous a donné le goût de rencontrer et de découvrir le projet de Guillaume Donnet, je vous invite à retrouver Guillaume sur son site internet voxcollector.com et sur sa page LinkedIn Guillaume Donnet. Je vous invite à vous inscrire à ce podcast au travers de votre système de balado-diffusion préféré. Si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent, vous pouvez m'écrire à podcast@jeudutaomtl.com. Pour le reste, je vous laisse partager cette interview sur vos réseaux. Ce nouvel épisode est offert par Christian Wirth, formation en intelligence collective et jeu du Tao.